Mémoire vive, l'émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, présentée aujourd'hui exceptionnellement par Dominique Trimbure. Et nous avons l'honneur de recevoir, l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Saul Friedlander, qui est de passage à Paris, et nous l'avons immobilisé un petit temps pour s'entretenir avec lui. D'une part, et c'est pour ça que cette émission sera en deux volets, d'une part donc de son itinéraire personnel et scientifique, et par ailleurs aussi, donc bien entendu, à propos de la parution de son deuxième volume de ce vaste opus qui est l'Allemagne nazie et les Juifs. Saul Friedlander, bonjour.
Bonjour.
Alors, la question, ma première question, en ce qui concerne votre itinéraire personnel et scientifique, va être un tout petit peu brutale. Et puis, j'imagine que vous avez dû déjà tant de fois répondre à cette question à l'oral ou à l'écrit. Comment devient-on Saul Friedlander ?
C'est brutal, en effet. Écoutez, d'abord, je ne sais pas quelle est la réponse à une question de ce genre, parce que ça impliquerait une prise de conscience totale du parcours qu'on fait. Je ne crois pas que ce soit possible, mais enfin. Et le fait même que, comme enfant et tout jeune homme, j'ai vécu les années de guerre cachées, j'ai perdu mes parents. Et ça, si vous voulez, ça m'a marqué pour ma vie, quoi.
Parce qu'effectivement, en fait, on vous connaît maintenant comme grand historien, et effectivement, on en reparlera à propos notamment de votre ouvrage, mais vous avez eu, je dirais, le malheur, en fait, effectivement, de vous inscrire dans l'histoire que vous avez, sur laquelle vous travaillez, dans la mesure où on a en vous un témoin, un survivant en tant qu'enfant caché, mais aussi un acteur, on y reviendra peut-être aussi, et maintenant donc un historien.
Voilà. Alors, bien sûr, les débuts expliquent la suite, et dans ce sens, il y a une continuité qu'on ne peut pas nier. Enfin, même si j'essayais de dire à l'historien est objectif, doit garder, il la garde, j'espère, une distance par rapport au sujet, et tout ça est vrai. Mais on ne peut pas nier que l'impulsion première vient du fait que j'ai vécu et le début de ma vie à l'époque nazie. Et que, bon, je suis resté seul à la fin de la guerre et je suis parti. Bon, je suis resté ici, en France jusqu'en 1948 et je suis parti en Israël en 1948. Et là, je dois dire, Dominique Trimbure, que curieusement, mais peut-être pas tellement. Et à cet âge-là, j'avais 15 ans et demi, et je suis devenu tellement sioniste et tellement israélien des débuts, quoi. Je parle de 48 et les années qui ont suivi, que la Shoah est passée à l'arrière-plan. Et je n'avais aucune intention de m'occuper de l'histoire de la Shoah ou de faire des études d'histoire, d'ailleurs. Et quand je suis... Bon, j'ai vécu en Israël, j'ai fait mon service militaire, etc. Et puis, je suis rentré à Paris pour faire Sciences Po, ce que j'ai fait d'ailleurs.
Alors, revenons peut-être juste, parce qu'on vous entend, Saul Friedlander, parler si bien le français, mais vous fûtes, de la même manière que je disais, vous êtes témoin, enfant caché, acteur et historien, vous fûtes Pavel, vous fûtes Paul-Henri Marie, et ensuite oui. Paul, et ensuite Saul.
Shaul, oui.
Shaul, voilà.
En hébreu, et Saul est une espèce de compromis entre, enfin, tout simplement, la francisation, l'américanisation de Shaul, qui est le nom qu'on... Quand je suis arrivé en Israël en 1948, on m'a posé la question, bon, j'arrivais de France, ce qui explique mon français, et on m'a posé la question, est-ce que tu as un nom hébreu ? Je dis, non, pas que je sache. Alors, choisis, quoi. Et je me suis dit, bon, Saül de Tarse est devenu Paul, Saint Paul. Et alors, je vais faire le chemin inverse. Je vais de Paul devenir Saül, enfin Shaul. Et c'est ainsi que j'ai pris le nom de Shaul en hébreu. Et c'était tout de même symbolique. C'était revenir au judaïsme, non pas religieux en ce qui me concerne, mais comme identification, comme self-identification.
J'allais dire, en fait, effectivement, vous faites partie, peut-être me trompais-je, mais vous faites partie de ces personnes à qui on a forcé de découvrir leur propre judaïsme, dans la mesure où à un moment, vous êtes devenu, parce que vous étiez né, vous êtes devenu un ennemi parce que juif. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous a marqué justement dans cet itinéraire et personnel et plus tard scientifique? Et on reparlera effectivement maintenant de ce passage à l'étude de la Shoah.
Oui, alors vous savez, la thèse de Sartre, comme quoi est juif qui est considéré comme tel par les autres, est vrai et faux. C'est-à-dire que moi, je venais d'une famille totalement assimilée, comme on pouvait l'être à Prague à cette époque-là, ou en Allemagne d'ailleurs. Et avoir été ensuite caché, tout ça, j'ai bien compris pourquoi, mais ça n'ajoutait rien à mon judaïsme. Au contraire, je suis devenu un catholique assez pratiquant, comme gosse, quoi. Mais quand même très... Et j'avais l'intention, d'ailleurs, après mes études, de devenir prêtre. Et on m'a sorti de là, et donc, si vous voulez, je suis devenu juif, si je peux dire malgré moi, par les circonstances. Mais une fois quand j'ai eu récupéré mon identité juive, je suis devenu à fond dans le sens sioniste, pas dans le sens religieux, et je me suis vraiment engagé. D'ailleurs, j'ai fui le lycée Henri IV pour me joindre à un groupe du Bétard, d'ailleurs.
Ce qui n'est pas rien.
Oui, et je suis arrivé en Israël sur l'Altalena, qui est un bateau qui a quand même eu sa propre histoire, mini-guerre civile, avec quand même 23 morts sur le bateau. Donc, je me suis retrouvé juif et israélien, surtout, du fait des circonstances, mais voilà.
Des circonstances et en fait, je dirais presque d'une destinée, parce que là, on entend des noms, on entend Prague, on entend l'Altalena, on entend effectivement l'Israël de la création de l'État d'Israël.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes déjà pleinement dans l'histoire.
Eh oui, et même il y a un côté un peu amusant à cette histoire. J'étais bien sûr, j'étais pensionnaire Henri IV. Et donc, comme pensionnaire, je ne pouvais guère sortir. Mais enfin, je lisais les journaux, je suivais la guerre d'avance, le 15 mai 48. J'ai été à la... C'était, je crois... Et dans quelle salle, je me souviens plus. C'était pas au Veldiv, parce que ça aurait été une mauvaise plaisanterie, mais c'était dans une salle du même genre où on a célébré la naissance d'Israël ici à Paris. Et la tribune était tellement pleine qu'elle s'est effondrée avec tous les notables qu'il y avait là. Et quand on est arrivé, pour arriver à Marseille, enfin pour monter sur l'Altalena, et il fallait fuir, il fallait quitter le lycée, comme l'écrivait le proviseur, subrepticement. Et j'ai quitté subrepticement le lycée Henri IV et pour aller acheter du pain. Et puis, je suis parti vers la gare de Lyon et j'ai retrouvé le groupe. Et le côté histoire est intéressant quand les gens se sont rassemblés dans le camp provisoire qu'il y avait là. Et 900 personnes, la plupart venant d'ailleurs des camps de personnes déplacées d'Allemagne.
En Allemagne.
Et il y avait des caisses et des caisses d'armes et de munitions qu'il fallait mettre sur ce bateau. Et les dockers ont refusé de le faire, et c'est l'armée française à l'époque, gouvernement socialiste, etc., qui a chargé donc les caisses de munitions sur le bateau, et puis nous, les 900 dessus.
On n'était pas vraiment anglophile à ce moment-là. Je crois qu'en fait, effectivement, la France pouvait par là effectivement contribuer à gêner en quelque sorte aux entourlures.
Les Britanniques, oui.
Les Britanniques qui étaient installés encore pour quelque temps en Palestine.
Oui, c'était déjà l'État venait d'être créé.
Exactement.
Pardon. Mais les Anglais étaient très fortement présents dans cette région-là. Et d'ailleurs, ils contrôlaient les côtes. Il y avait des navires. Et alors, ce qui a obligé l'Altalena à zigzaguer en arrivant vers les côtes d'Israël. Et ce n'est pas les Anglais ni les Américains. Et c'était la première trêve. qui ont vraiment fait des ennuis au bateau, c'est l'armée d'Israël qui a reçu l'ordre de tirer dessus.
L'Altalena, effectivement, était du côté de la droite du Reyrout.
Oui.
Et effectivement, Ben-Gourion, au pouvoir à ce moment-là, oui, n'avait que faire d'armes destinées à la clandestinité.
À l'Irgun, voilà, oui, c'est absolument. Ça.
Alors, vous aviez commencé à expliquer, vous arrivez en Israël, mais pour en repartir, pour aller à Sciences Po.
Pour en repartir, oui et non, parce que je voulais entrer dans la diplomatie israélienne. Et donc, je me suis dit, bon, Sciences Po, c'était parce que quand même, je voulais faire des études dans la langue qui m'était la plus familière, bien que j'ai passé le bachot en hébreu, mais le français, puis Sciences Po, je connaissais quand même de réputation. Et c'était la raison, mais je pensais que j'étais dans le même groupe, on était d'ailleurs tous très copains, avec Ben Elissar et Rosen. Donc,
oui.
C'est amusant
pour
maintes raisons, mais on était tous ensemble à Sciences Po et on travaillait tous à l'ambassade d'Israël comme employés locaux pour gagner notre vie et payer ce qu'il fallait payer pour faire ses études. Et donc, mon intention était de revenir et de passer le concours qui avait des affaires étrangères et puis être diplomate. Et puis, les choses sont passées autrement.
Effectivement. Alors là, vous devenez, à ce moment-là, l'assistant de Nahum Goldman.
C'est vrai. Oui,
vous l'avez été pendant combien de temps?
Pas tout de suite. Je suis allé en Suède d'abord, rendre visite à un oncle qui dirigeait une maison d'enfants handicapés. J'y ai travaillé pendant une année. J'ai appris le suédois, que j'ai oublié entre-temps. Et de là, je suis parti aux États-Unis faire mes études de doctorat à Harvard. Et puis Goldman, qui savait que j'avais fait de très bonnes études à Paris et qui avait un peu suivi ce que je faisais, m'a demandé finalement je ne voulais pas plutôt travailler avec lui comme une sorte de secrétaire ambulant allant d'un endroit à l'autre.
Nahum Goldman, alors pour nos éditeurs, président du Congrès juif mondial.
Et président de l'organisation sioniste mondiale, des deux.
Voilà, absolument. Donc il avait la double casquette et donc il vous appelle à ses côtés.
Oui, pour être une sorte de, comment dire, d'assistant, de secrétaire. J'écrivais son courrier et j'allais rencontrer des gens quand ils voulaient rencontrer tel et tel, quand ils voulaient rencontrer Ben-Gurion. C'est pas moi qui y allais, mais quand tel et tel, à l'agence juive ou ailleurs, demandait à le voir, c'est moi qui faisais un peu ce travail de contact. Et j'ai travaillé avec lui pendant 2 ou 3 ans. La dernière chose que j'ai faite avec lui, je travaillais déjà ailleurs, c'était le premier colloque pour les Juifs d'Union soviétique qui s'est tenu à Paris en 60, je crois, ou 60, en 60, oui.
Donc
c'est moi qui l'ai organisé.
Déjà une véritable préoccupation, absolument, pour les sionistes.
Oui, tout à fait.
La nécessité de sortir.
Oui, et c'était encore ma phase très sioniste et pas vraiment préoccupé de l'histoire de la Shoah.
Alors justement, vous êtes encore, passez-moi l'expression, dans l'histoire, et quel va être le déclenchement qui va vous faire passer en quelque sorte de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous pousse à devenir l'historien que vous êtes désormais devenu ?
Alors, bien sûr, c'était inscrit, si on peut dire, dans le passé même, le mien, mais ça s'est développé en 2-3 étapes. Après Goldman, j'ai travaillé avec Shimon Peres. Pendant une année, j'étais un de ses assistants quand il a été vice-ministre de la Défense, le ministre étant Ben-Gurion encore en 60. Et puis, j'ai vu que ce n'était pas pour moi, enfin que je n'étais pas fait pour continuer une carrière de fonctionnaire, peu importe où. J'ai pris la décision de reprendre mes études de doctorat que j'avais laissées tomber. J'ai essayé de trouver une place d'assistant quelque part pour me payer ces études. Entre-temps, j'étais marié, on avait un fils, un bébé, quoi. Et finalement, je l'ai trouvé à Genève, à l'Institut des hautes études internationales, qui m'a offert une bourse. Et c'est ainsi que j'ai atterri à Genève pour faire un doctorat sur un thème qui avait à faire avec le nazisme, mais pas du tout avec l'histoire de la Shoah. Je ne faisais pas encore le lien. Et j'ai fait ma thèse sur Hitler et les États-Unis. Donc, comment Hitler se représentait-il l'entrée en guerre des États-Unis entre le début de la guerre d'Europe et Pearl Harbor, disons. Et j'ai fait cette thèse. Et c'est au cours du travail à Bonn dans les archives allemandes que j'ai trouvé par pur hasard un document qui n'était pas à sa place dans les dossiers États-Unis. Et qui était en fait une demande du pape Pie XII à l'orchestre de l'opéra de Berlin, qui visitait à ce moment-là, qui était en visite à Rome, de venir jouer des extraits de Parsifal dans les appartements pontificaux.
Parsifal de Richard Wagner.
Oui, en décembre 1941. Alors, en regardant ça, je me suis dit quand même, c'est incroyable, etc.
On comprend le déclic.
Et voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à voir les dossiers Vatican et que j'ai commencé à m'occuper de l'Église et des Juifs. Et donc, ensuite, j'ai continué. Je suis devenu vraiment, c'était le moment où je suis devenu historien de la Shoah.
Alors, je vous propose de revenir, en fait, dans la deuxième partie de cette émission sur cette activité même d'historien, et on se concentrera effectivement sur le volume qui est paru au mois de mars de cette année. Là maintenant, est-ce que, et c'est aussi un peu une question brutale peut-être, est-ce que vous avez le sentiment, à l'aboutissement en fait de votre carrière et avec ce couronnement, je crois, qui est cette œuvre, cet opus magnum, pour utiliser l'expression latine, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir créé en quelque sorte ou contribué à créer une école d'historiographie ?
Ben, ça, on le verra.
Non,
mais je veux dire, j'ai eu beaucoup d'étudiants de doctorat qui ont fait des thèses avec moi au cours de ces 40 dernières années, plus ou moins, enfin. Mais je crois qu'il y a quelque chose, si je peux me permettre de le dire de nouveau, dans cette approche, et ça a été déjà signalé, si ou là, et c'est la fusion de l'histoire externe, si vous voulez, de la Shoah, donc les institutions, des bourreaux, si vous voulez, utiliser ce terme, les bureaucraties, les collaborateurs, etc., etc. Et puis, il y a l'histoire interne des Juifs qui a été écrite séparément, et les deux ne sont en fait jamais rencontré, sauf juxtaposition dans des livres et des textbooks. Et c'est ça la contribution, si vous voulez, c'est d'écrire une histoire intégrée.
Alors justement, je vous propose d'y revenir un peu plus tard. Maintenant, si vous deviez proposer un conseil, donner un conseil à un jeune historien qui veut se lancer dans la carrière historienne en général et éventuellement dans des études sur la Shoah, qu'est-ce que vous lui conseilleriez justement ? Dans quel sens serait-il pour vous préférable qu'il se dirige ? Que reste-t-il à faire en quelque sorte ?
Il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on découvre qu'il y a énormément de choses qui restent à faire ou que l'on découvre en fait qu'il y a des chemins que l'on voit en travaillant. Alors, j'ai quand même une petite idée là-dessus. Il est difficile pour beaucoup de faire ces histoires générales et d'ensemble, un peu ce que j'ai fait. Ça m'a pris un nombre d'années considérable. Et puis, bon, par hasard, je connaissais les langues, etc. Mais je crois que ce qui serait extrêmement important et utile serait de faire ce que font déjà un ou deux de mes jeunes collègues, se concentrer sur de toutes petites entités, disons une petite ville. Alors j'ai en tête un travail que quelqu'un fait sur Buchach en Galicie, où vivaient des Ukrainiens, des Polonais et des Juifs, trois populations qui vivaient tant bien que mal les unes avec les autres, mais enfin pendant des siècles, si vous voulez. Et donc regarder ça avant la guerre Et puis, quand arrivent les Allemands, alors les Allemands dans tout ça, et les coalitions diverses, et puis l'extermination des Juifs, bien sûr, et puis ce qu'il en reste après, pas des Juifs, mais de la mémoire. Donc, c'est une micro-histoire sur des lieux très spécifiques où on voit l'interaction de divers groupes ethniques avec les Juifs et avec les Allemands pour comprendre le problème de cette histoire intégrée, mais par la base, en quelque sorte.
J'allais dire, en fait, vous conseilleriez exactement l'inverse de ce que vous avez produit.
Non, parce que moi, je pense à cette histoire intégrée. J'ai, si vous voulez, je l'ai fait à l'échelle du continent. Mais bon, et ce n'est pas un conseil à donner pour de multiples raisons. Mais on peut reprendre le même problème à une échelle locale où il y aurait toute une série d'éléments très divers qui se rencontreraient. Ce qui serait à la fois voir les choses de l'intérieur et voir les administrations allemandes dans cette petite ville, etc. Donc, à une micro-échelle, vous refaites le même parcours et vous découvrez pas mal de choses.
Alors, dans la minute qui nous reste, peut-être une réponse à une question qui est en fait très, très vaste. Quelle réponse pourrait-on donner à ceux qui disent qu'on a déjà trop de Shoah et que trop de Shoah tue la Shoah? Dans Le Monde diplomatique du mois de juin 2008, paraît un article de l'historien américain Tony Judt qui évoque ce problème et plutôt de manière assez franche et agressive. Que faudrait-il répondre à cela? Est-ce que trop de Shoah tue la Shoah?
Tout dépend de... Enfin, ma réponse, bien sûr, c'est non. Mais ce qui est vrai, en un sens, c'est qu'il y a trop de publications qui ne sont pas peut-être au niveau auquel elles devraient être, ou trop de manifestations qui ne sont peut-être pas ce qu'elles devraient être. Je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article de Tony Judt, je connais son travail, mais enfin, ça a été déjà dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a un article célèbre de Robert Alter, un historien de la littérature, si vous voulez, et spécialiste de littérature hébraïque qui se trouve à Berkeley, qui avait dit ça il y a 30 ans. Donc ça revient par vague, ce genre de remarques. Le problème est bien trop présent dans la pensée européenne et occidentale pour que tout d'un coup il disparaisse et qu'il n'y ait plus de travaux à faire dessus. Mais la critique n'est pas fausse dans la mesure où elle indique qu'il y a quand même des éléments dans cette commémoration et dans ce travail qui ne sont pas au niveau auquel ils devraient être.
Saul Friedlander, je vous remercie.
Merci bien.